C'est la Bourse Cash. David Cruc nous rejoint, la financière de l'échiquier. Bonjour David.
Bonjour Guillaume.
Vous venez dire leurs quatre vérités au marché. Vous êtes sûr ?
Je suis sûr.
Voici votre message aux investisseurs aujourd'hui, David. Pour vous, l'Europe fait son comeback. Alors ça, vous l'assumez ?
Je l'assume totalement.
L'Europe fait son comeback, et son comeback boursier, mesdames, messieurs. C'est le propos que vient vous délivrer. David Cruc, vous êtes sincère quand vous dites que l'Europe fait son comeback ?
Alors, je ne suis pas toujours sincère, mais là, je suis sincère. Mais c'est vrai, Guillaume, je ne suis pas venu pour parler des cotes et valorisations, parce que ça, je sais qu'on en parle, c'est un serpent de mer, la décote des marchés européens contre les marchés américains. Mais quatre points très courts, synthétiques. C'est le troisième que je préfère, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a un scénario en Europe qui est assez visible, avec une inflation qui commence à décroître et une croissance plus faible qu'aux États-Unis, mais déjà connu. Donc, il y a un découplement en termes de politique monétaire qui est acté. Mmh. Aux US, on n'est pas totalement sûr du moment où la Fed va baisser ses taux. En Europe, on en est à peu près sûr, ça sera juin. Comme d'ailleurs la BOE, on pourrait parler aussi du marché anglais. Et c'est toujours mieux d'être derrière une politique monétaire accommodante, derrière toujours une banque centrale accommodante. C'est toujours un moment où on gagne et où les marchés s'envolent quand les politiques monétaires sont accommodantes. Et on l'a vu à travers le Japon, qui est revenu sur ses niveaux de 1990 grâce à une politique ultra accommodante, peut-être trop accommodante d'ailleurs. Alors certes, vous allez me dire, sur le change, vous allez perdre un peu, mais généralement, les marchés montent. Donc, une visibilité, un scénario très clair en Europe et une politique accommodante, ça j'achète. Le deuxième point, c'est un rendement pour nos investisseurs qui est quand même de 4,8% sur le Stoxx 600 et sur le S&P, il est de 3,5%. On a un point de plus de dividendes et de buyback et ça, je crois qu'on n'en est pas toujours conscient. Et pour les investisseurs, c'est quand même un rendement qui est quand même extrêmement attrayant. Donc plus attrayant en Europe qu'aux US.
Oui, enfin, on a ce rendement plus attrayant en Europe parce que les actifs en Europe sont plus décotés qu'aux États-Unis aussi. Enfin,
aussi, oui, d'accord. Mais
Oui, David.
Oui, mais c'est quand même une bonne chose aujourd'hui de pouvoir acheter un marché avec un rendement aussi important. Le troisième point, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est la contraction de la taille du marché en Europe. Est-ce que vous savez, Guillaume, combien le marché s'est contracté en 12 mois ? 170 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est une équation extrêmement facile. Il y a beaucoup de share buyback.
Des rachats d'actions.
Il y a du M&A, donc des fusions-acquisitions. Et par contre, il y a une anémie un peu de sur le marché primaire. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup ce qu'on appelle des IPO, des mises sur le marché. Il y a peu de sociétés qui revendent en secondaire, ce qu'on appelle nous des ABB. Chaque fois, je suis obligé de transférer en français. Donc, l'équation, elle est assez facile. 170 milliards de moins d'actions en circulation sur les marchés européens et toujours un enthousiasme et une résilience des acheteurs importante.
C'est-à-dire que ce que vous venez nous dire, c'est qu'on a aussi une forme de contrition exactement. Du marché actions, de la taille du marché actions, de la capitalisation boursière et donc des actions disponibles, alors que la demande est toujours là, peut-être un peu moins qu'elle ne fut un temps, mais enfin elle est toujours là. L'offre se raréfie davantage que la demande ne diminue, c'est ça l'idée, ce qui contribue peut-être aussi à faire monter les marchés actions en Europe.
D'accord. C'est exactement ça. Et en janvier-février, je ne l'avais pas vraiment réalisé, donc j'étais assez content du point d'entrée d'octobre, et c'est vrai que finalement, je voyais plutôt une consolidation, mais dans une équation aussi simple que ça, c'est très très difficile pour les marchés de revenir les plus bas.
Donc trois points forts pour l'Europe.
Et le quatrième,
il y a un dernier.
C'est vrai. C'est la Chine quand même qui est important, puisque l'activité chinoise quand même s'améliore. Il y avait une très belle note du BS cette semaine qui upgradait le marché chinois. Tout le monde a une croissance de 5%. On n'a jamais été aussi exposé à la Chine que l'Europe, notamment l'Allemagne, bien sûr. Et donc ça, c'est le quatrième point, puisque ça va mieux en Chine. Donc si ça va mieux en Chine, ça ira mieux en Europe. Et ça, c'est un point important. Et c'est mon cas.
Ça arrête de se dégrader en Chine. Est-ce qu'on peut le dire plutôt comme ça ? On n'a pas non plus un énorme redémarrage chinois. Voilà. Alors, les effets de base deviennent plus favorables. Bon,
je suis d'accord avec vous.
C'est tout, David.
Mais on n'achète jamais ce qui se passe actuellement. On achète l'anticipation de ce qu'il va y avoir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore extraordinaire, mais la croissance va s'améliorer et on voit quelques signes tangibles d'amélioration.
Quatre points forts pour l'Europe, donc. Et vous dites même, l'Europe boursière fait son comeback et va continuer, poursuivre, amplifier peut-être ce comeback, à savoir donc son exposition à la Chine qui était un point faible peut redevenir un point fort.
Absolument.
Voilà, le goût des marchés pour les actifs décotés, ce rendement des actions européennes plus fort que le rendement des actions américaines, la BCE qui va baisser ses taux sans doute avant la Fed, point fort, et puis de moins en moins d'offres d'actions et donc
une
mécaniquement,
absolument.
Ça fait monter le marché.
On a une diminution qui est au rythme le plus élevé depuis 2 ans.
Étienne nous appelle justement les marchés européens. On en parle, on va les vivre cette séance de l'intérieur 15h48. Étienne depuis la tour Euronext. On est en hausse aujourd'hui en Europe. En hausse à peu près comparable à celle du S&P 500. Le CAC gagne un peu moins que le S&P, mais enfin on est à peu près à égalité.
Oui, en effet, même depuis 14h30, les Américains ont visiblement un petit peu vendu l'Europe, puisque le CAC 40 n'est plus sur les plus hauts niveaux de la séance. Néanmoins, elle gagne 0,2%. Alors, le CAC est à 1,5% de son record, mais en Europe, il y a un indice qui a touché un nouveau plus haut historique aujourd'hui, c'est le FTSE à Londres, grâce notamment aux valeurs pétrolières qui ont bien surperformé ces derniers jours. Le pétrole qui recule très légèrement, moins 0,3% à $87. À noter que le marché encaisse une nouvelle fois très bien la remontée des taux, avec un 10 ans américain qui reprend 4 points de base à 4,65, un 10 ans français qui est sur des plus hauts de 5 mois à 3,07, et malgré cela, eh bien, vous avez les indices qui continuent d'avancer. Visiblement, les inquiétudes de la semaine dernière et les envies de consolidation ont vite été balayées par les résultats d'entreprises qui, pour l'instant, sont plutôt bien intégrés.
Effectivement, alors on reparlera de Kering quand même à partir de 16h, parce que là, c'est quand même la douche froide, même si le groupe avait averti, la publication déçoit. Ce titre Kering recule en ce moment de plus de 5%. Thibaut François sera avec nous à 16h pour en parler. En revanche, les semi-conducteurs, c'est un carton. Texas Instruments a publié ses résultats. Tout le secteur rebondit après la semaine dernière qui était compliquée. David, il faut revenir sur le segment des semi-conducteurs.
Oui, il faut revenir, c'est un signal fort, Guillaume. Texas Instruments, c'est quand même la société que tout le monde regarde, que tout le monde écoute. C'est une des plus grosses sociétés dans l'industrie des semi-conducteurs, qui est liée à l'industrie des semi-conducteurs industrielle et automobile. Donc pas tout ce qui est digital, wireless, PCI, il faut faire la différence. C'est tout ce qui est analogue. Et là, il nous donne quand même un message qui est extrêmement intéressant, c'est que la correction des inventaires est finie. Dans les semi-conducteurs, vous achetez, c'est cyclique au moment où la correction se termine des inventaires. Donc c'est un message très fort. On voit Infineon qui rebondit, qui avait été un peu massacré, c'est un mot un peu fort, mais qui avait en tout cas consolidé assez nettement ces derniers temps. Là, on a un rebond fort, on a un rebond d'STM, de X-Fab, de Melexis qui a sorti ses résultats. Mm-hmm. Donc on voit une industrie qui repart fort, plus d'autres résultats qui sont aussi extrêmement intéressants, comme ASMI, bien sûr, comme Nordic Semi, qui était pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Donc un indice des semi-conducteurs qui avait beaucoup baissé depuis une dizaine de jours et qui devrait remonter, mais qui devrait continuer de remonter, puisqu'effectivement, on a un message aujourd'hui extrêmement fort de Texas sur cette correction d'inventaire qui est finie.
Texas gagne 5% à Wall Street, STM en profite et gagne 6%, plus forte hausse du CAC 40. Dernière question. Il semble que les Américains soient en train de réfléchir, David, de réfléchir à supprimer les horaires d'ouverture et de fermeture du NYSE, du New York Stock Exchange, donc Wall Street, qui serait comme ça en cotation permanente et continue le week-end, la nuit, enfin voilà, il y aurait plus d'horaire en quelque sorte. C'est juste une piste de réflexion de la part du NYSE, mais voilà, ils essaient d'explorer cette idée. En gros, on pourrait du coup faire du trading sur actions tout le temps, plus d'horaire d'ouverture ni de fermeture, un peu comme on le fait déjà sur les cryptos par exemple, qui n'ont pas non plus de jours fériés ni de samedi dimanche. Cette hypothèse, ce scénario, il vous plairait? Vous suivez d'ailleurs tout ça, vous êtes acteur du trading pour la financière de l'échiquier, ça vous plairait de pouvoir le faire tout le temps, en continu, sans horaire d'ouverture et de fermeture?
Pas du tout. Et j'y crois pas une seconde. Peut-être que je serais payé plus cher, remarquez, c'est peut-être une bonne chose. Mais déjà, nous, on n'utilise pas toute la plage horaire qui est due généralement après 18h30, 19h. Mais les investisseurs étrangers, c'est 18% du marché américain. Je suis pas sûr qu'ils changent tout ça pour 18% seulement du marché. Et puis, on est juste en train de changer.
Oui, mais attendez, justement, si on peut trader, même quand aux États-Unis c'est la nuit, la part des investisseurs étrangers va augmenter, du coup.
Je pense pas moi, à l'inverse, je pense qu'ils feraient pas ça pour 18% seulement. Et la dernière chose, c'est qu'en ce moment, on est en train de changer tout le process de middle office où on n'est plus à J+2. Donc, c'est les règlements livraison des titres. Parce que c'est bien de traiter, Guillaume, mais il faut pouvoir aussi livrer derrière. Mm-hmm. On passe de 2 jours à 1 jour. Si on devait passer à J0, ça serait très complexe. Donc, non, la conclusion, c'est que j'y crois pas une seconde, en tout cas sur le court terme.
Oui. Puis, l'avantage des horaires d'ouverture et de fermeture, comme ça, c'est que ça permet, entre-temps, de laisser le temps de réfléchir, justement, aussi. C'est un peu de maturité au marché, c'est pas mal. Bon, David Kruk, merci beaucoup, David. La financière de l'échiquier est régulièrement à nos côtés.